journal du 7h. Marthe Cacou.
Nous sommes le mardi 12 septembre 2023. Tout de suite, les faits majeurs. Double cérémonie de lancement des activités de la quinzaine des droits de l'homme et du prix national des droits de l'homme pour l'édition 2023. Le choix du CNDH, du Conseil national des droits de l'homme, s'est porté sur le thème suivant: jeunesse, droit et engagement civique. Les échos dans quelques minutes. Des élections locales, il en sera aussi question dans ce journal avec Alternative citoyenne ivoirienne, une plateforme de la société civile qui a rendu public son rapport d'observation des municipales et régionales couplées. Sa présidente appelle à une refonte de la CEI, la commission électorale indépendante. Pulcherie Edith Gbali est l'invitée de la rédaction. Mais avant cet entretien, Francis Cassi va parcourir les titres qui s'affichent à la une de vos journaux. Actualité au Mali, les ex-rebelles du Nord disent être en temps de guerre avec la junte. Voilà pour l'ossature. Bonjour à tous. Promotion des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme a procédé au lancement de la quinzaine des droits de l'homme et au lancement du prix national des droits de l'homme édition 2023. C'était hier au siège du CNDH. Aux deux plateaux Vallon à Cocody, ce double événement se tiendra du 1er au 15 décembre 2023 autour du thème central jeunesse, droit et engagement civique. Ce double lancement des activités s'est déroulé en présence des agences du système des Nations Unies, des représentants de l'Union européenne et des anciens lauréats du prix, nous dit Jean-Claude Mabia.
Conformément à son mandat, depuis 2016, le CNDH a institué la quinzaine des droits de l'homme. Cette activité vise à rapprocher l'institution des populations et de célébrer des journées dédiées à la promotion des droits de l'homme. Les explications de Namizata Sangaré, sa présidente, sur le choix du thème de l'édition 2023.
Pour cette édition 2023, le choix du CNDH s'est porté sur le thème « Jeunesse ». Droit et engagement civique, en raison de l'esprit d'innovation de cette jeunesse, de notre volonté commune de les détourner de la violence, des actes d'incivisme et de défiance aux institutions de la République. Les jeunes doivent défendre les droits de l'homme. L'objectif est de célébrer également leur potentiel et leur capacité à être des acteurs et des actrices de changement constructif.
Mais comment postuler au prix national des droits de l'homme et à quelles conditions? Docteur Marie-Paul Kodjo, vice-présidente du CNDH, précise.
Premièrement, être une personne physique ou une organisation de la société civile œuvrant dans la protection des droits de l'homme. Deux, avoir mené des activités en lien avec la thématique sus-évoquée. Les activités doivent être innovantes et contribuer à apporter une solution concrète, efficace, impactante et durable. Les soumissionnaires doivent déposer un dossier physique sous pli fermé au siège du Conseil national des droits de l'homme.
Ce lancement marque le début des soumissions pour le prix national des droits de l'homme et prendront fin le 10 novembre 2023.
Hausse du prix du riz, c'est une réalité en ce moment sur le marché. Les coûts varient selon les qualités et les types de riz. C'est ce qui ressort du constat terrain fait hier à Abidjan par Mel Emmanuel.
Le riz est devenu cher, la vie est devenue chère.
Le prix a augmenté vraiment.
Le riz est devenu cher, depuis un moment on ne peut même pas acheter le riz même.
Disent certains consommateurs rencontrés au marché d'un nono dans la commune de Cocody. La hausse du prix du riz est une réalité pour les commerçants comme pour les clients. Ibrahim, vendeur détaillant.
Avant là, on payait les sacs à 22 000, après c'est devenu 24 000. Actuellement là même on paye ça à 24 500.
Et la quantité n'est parfois pas au rendez-vous.
Il y a les sacs là même là, tu payes, oh ils ont écrit 50 kilos dedans, mais ça n'arrive pas 50 kilos. Quand tu mesures, c'est 45 kilos qui est dedans.
En plus, les coûts varient selon le type de riz, nous dit Aboubakar, un autre détaillant.
Le riz cassé, avant on prenait à 22 000, maintenant c'est 24 500, 50 kilos. Donc avant 50 kilos, c'est 20 000. Maintenant, je vais jusqu'à 24 000.
Dans une grande surface de la place, à l'eau désirée, une cliente nous fait son point.
Je pense que c'est légèrement en hausse. J'avais regardé ailleurs, c'est en hausse de façon générale, mais ici c'est beaucoup mieux. Quoi.
Rappelons que le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a déclaré récemment dans une rencontre avec les opérateurs économiques, travailler de concert avec eux pour une entente sur les prix.
L'augmentation constatée au niveau des denrées alimentaires a poussé des organisations de consommateurs à produire des déclarations sur la situation. C'est le cas de la Coalition nationale des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichère. Son président Soumaoro Ben Fally revient ici sur le contenu de sa déclaration.
Depuis 2 ou 3 semaines, nous avons assisté à une augmentation progressive et sauvage du prix des différentes qualités de riz. Il y a des riz qui sont passés de 14 500 à 19 000 francs. Ça concerne toutes les qualités de riz, hein, et un certain nombre de produits manufacturés et le manque de sucre sur le marché. Vous savez que l'importation du sucre est interdite en Côte d'Ivoire pour protéger l'industrie locale. Est-ce que nous pouvons sacrifier les intérêts de 25 millions de consommateurs au profit de 2 industries et qui n'arrivent même pas à produire le sucre? Au jour où je vous parle, vous pouvez faire 2 ou 3 magasins sans en avoir un paquet de sucre. Et le troisième point, le non-respect du prix du gaz. C'est intolérable que l'État de Côte d'Ivoire puisse consentir 28 milliards par an pour que les ménages payent le gaz butane à un prix et que des revendeurs rentrent dans le circuit et mettent les prix qu'ils veulent sous prétexte que ceux qui leur donnent gaz ne leur font pas de retour.
Mais président, si cela n'est pas respecté, vous en tant que président d'une organisation des consommateurs, qu'est-ce qui doit être fait?
Mais nous sommes là pour transmettre la souffrance des consommateurs aux décideurs. Et si le dossier ne bouge pas, nous nous retournons vers le consommateur pour qu'ensemble, on décide de ce qui doit être fait.
Soumaoro Ben Fally, président de la Coalition nationale des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichère. Il a été joint par Junior Cardin. Rentrée scolaire 2023-2024, quelques 7 millions d'élèves ont repris hier le chemin de l'école. En Côte d'Ivoire, c'est la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation qui a procédé au lancement officiel de cette nouvelle année scolaire au lycée municipal d'Atekoubé. Une rentrée placée sous le thème suivant, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. À cette occasion, Maria Toukoné a indiqué que le choix du thème vise à mettre en évidence l'impératif de la responsabilité individuelle et collective au service d'une école de qualité. C'est pour mieux réussir l'année scolaire et pour mieux réussir l'année scolaire. Je vous propose d'écouter quelques conseils d'une psychopédagogue, Berthodile Pohon.
Maintenant, on rentre dans le réveil, aller à l'école à l'heure, étudier, faire ceci, faire cela. L'enfant va faire des petites révisions, il va essayer de voir. Donc, déjà, dans le mode préparatoire, la préoccupation des parents, c'est la réussite. La préoccupation des enseignants, c'est la réussite. La préoccupation de l'élève devrait être également la réussite. Donc, quand je parle aux parents, qu'on comprenne qu'on vient de sortir, il y a une lourdeur. Donc, on aille doucement comme un moteur diesel. Même déjà pour acheter les fournitures, il faut le faire avec l'enfant, il faut voir de quoi il a besoin. Le suivi de l'enfant commence déjà par la rencontre avec son établissement, la classe de votre enfant. C'est des éléments importants qui montrent à l'enfant qu'il est une priorité dans votre vie. Aux enfants, je vais dire, les enseignants vont faire leurs devoirs, les parents vont acheter ce qu'il faut, ils vont faire le suivi. Mais celui qui est intéressé par l'apprentissage, c'est l'enfant. Qu'il sache que la cour de récréation, c'est pour bavarder. Mais en classe, il faut développer cette mémoire visuelle. Je regarde. La mémoire auditive, j'écoute. Je suis attentif. Que les enseignants fassent attention. On enseigne avec l'attention de l'enfant. Quand ça baisse, je ne continue pas. Je sais que l'enfant ne me suit plus.
Berthodile Pohon, psychopédagogue, et puis 5 machines servant au transvasement du gaz butane vers d'autres sources d'énergie ont été saisies par la direction régionale du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Boaké. Ces matériels ont été présentés récemment à la presse dans les locaux de la dite direction. Témoin pour Radio de la Paix, Joseph Assali, notre correspondant régional dans le Boaké.
Désormais, les établissements de transvasement du gaz butane sont traqués à Boaké où plusieurs matériels de travail des fraudeurs ont été saisis. Fadiga Mamadou, directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME.
Nous avons saisi en 3 jours de contrôle au début du mois d'août près d'une 30aine de machines de pompage. Et maintenant, c'est de nuit qu'ils s'adonnaient à cette activité de transvasement. Et nous avons réussi à mettre la main sur la part des machines qui faisaient l'objet de transvasement. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une 50aine de machines.
Cette opération vise non seulement à assainir le milieu, mais aussi à garantir le bien-être des populations. D'où l'engagement des autorités à ne plus baisser pavillon, à en croire le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, Fadiga Mamadou.
Cette activité dans laquelle ils exerçaient depuis longtemps ne peut plus prospérer. Boaké ne peut plus être comme avant. Nous sommes obligés d'appliquer la réglementation pour l'amélioration même du climat des affaires et puis pour tous les événements que nous voulons abriter à Boaké, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes obligés d'adopter un comportement sorti de l'informel. On ne peut plus travailler à Boaké comme avant. C'est cette mission-là qu'on nous a confiée.
Les différentes organisations des consommateurs saluent l'opération des autorités locales du commerce.
Vous qui vendez les gaz et nous qui consommons aussi, vraiment, nous sommes en danger. Je pense que chacun va prendre ses dispositions pour que nous soyons vraiment plus à l'aise.
Selon le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Boaké, la lutte contre la fraude du gaz butane sera sans répit. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Actualité au Mali, les ex-rebelles du Nord ont dit être, ils ont dit être en temps de guerre avec la junte au pouvoir à Bamako. C'était dans un communiqué intitulé « Communication en temps de guerre » et reçu par l'AFP, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Dans ce communiqué, authentifié par un porte-parole, la coordination des mouvements de la Zawad appelle tous les habitants à se rendre sur le terrain pour contribuer à l'effort de guerre dans le but de défendre et protéger la patrie et ainsi de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national azawadien. Séisme au Maroc, trois jours après le tremblement de terre, les secouristes marocains appuyés par des équipes étrangères tentaient hier de retrouver de toute urgence des survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abri dont les maisons ont été rasées après cette catastrophe qui a fait plus de 2100 morts, rapporte l'AFP. On continue avec la revue des titres de vos journaux et c'est Francis Cassi qui a fait ce matin le tour des kiosques. Bienvenue Francis.
Bonjour Marthe, bonjour à tous. Démarrons notre revue des titres de ce mardi par ce qui se passe au Conseil de l'Entente, organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest, créée le 29 mai 1959, comprenant cinq pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire, qui abrite son siège. Depuis hier, elle a un nouveau dirigeant à en croire vos journaux. Nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Ouattara Ouattabouna. Voici le premier chantier. Titre à ce propos, Fraternité Matin. En fait, il prend la place de l'ancien, selon l'Inter qui dit, conseil de l'entente, Marcel Amontano, relevé de son poste, celui qui le remplace. Ainsi que le quotidien d'Abidjan, avec conseil de l'entente, Amontano viré. L'élection des sénateurs annoncée pour le 16 septembre est un autre sujet intéressant, vos journaux de ce jour. Le RHDP va remporter les sénatoriales, dit à cet effet Jacques Assaoré, président du conseil régional du Boaké sur le Patriote. Quand sur le même sujet, l'avenir annonce Tony Truant. Après la razzia au municipal et au régional, le RHDP prêt a tout raflé encore au sénatorial, la campagne ouverte depuis hier. Pareil pour l'expression qui note, sénatorial 2023, après les élections locales, le RHDP prépare une autre razzia. Mais la tenue de cette élection des sénateurs, le 16 septembre, est critiquée par certains tabloïds, notamment La Voix originale, indiquant « Malgré les contentieux électoraux non vidés, la CEI tourne le Conseil d'État en bourrique vers des sénatoriales avec des électeurs contestés. » Ce qui fait écrire le temps simplement ceci. « Élection des sénateurs, il y a problème. » Entre-temps, les récentes municipales et régionales, bien que leurs résultats soient connus, reste d'actualité. Et là-dessus, le matin, tient ce commentaire. Après sa débâcle aux élections locales, fraude, l'argument du désespoir de l'opposition. Quand, à sa rescousse, le quotidien Le Soir ivoirien barre ainsi sa une, municipale et régionale 2023. Avant la proclamation des résultats définitifs, voici pourquoi l'opposition s'attaque à la CEI, le PDCI et le PPACI, mauvais perdants. Et comme si leur répondait, Dernier Monde pose alors cette question. Élection municipale et régionale 2023, victoire ou débâcle pour le RHDP. Et le Bélier intrépide aussi de répliquer ciblant la CEI en ces termes. Organisation des élections, CEI, pourquoi il faut tout changer. L'année scolaire 2023-2024, débutée hier en Côte d'Ivoire, est aussi traitée par Fraternité Matin qui, à cet effet, écrit « Éducation, rentrée des classes, l'appel à une année sans grève ». Enfin, nous terminons notre revue des titres des journaux de ce 12 septembre par cette manchette de Le Nouveau Réveil. Une difficile crise alimentaire s'annonce. Prix du riz, Ouattara échoue à nourrir les Ivoiriens. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Francis Cassi qui reviendra à 8h pour la même activité, à savoir la revue des titres de vos tabloïdes. Mais avant, Francis Cassi va s'entretenir avec l'invité de la rédaction qui est déjà en ligne. C'est la présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne, une plateforme de la société civile, Pulcherie Edith Gbalé, appelle à une refonte de la CEI au vu, dit-elle, de son observation des récentes élections municipales et régionales. Un entretien à suivre immédiatement.
Pulcherie Gbalé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre plateforme a observé les élections locales récemment.
Oui, mais pas de façon officielle.
Et pourquoi pas de façon officielle?
Parce que nous n'avons pas obtenu l'accréditation de la CEI.
Est-ce que vous en avez fait la demande?
Oui, bien sûr. On a écrit à la CEI au mois de mai, mais c'est à la mi-juillet que la CEI a publié la liste des éléments à fournir pour observer les élections. Et nous avons satisfait à toutes ces conditions-là. Et on n'a pas compris pourquoi on n'a pas été retenu. On n'a pas non plus reçu d'explication.
Et malgré ça, vous avez fait votre travail, selon vous, d'observation électorale.
Oui, bien sûr. Nous sommes Ivoiriens. Nous avons le droit d'observer aussi les élections avec ou sans l'accréditation de la CEI.
Et après avoir observé ces élections, quelle est votre conclusion?
Dieu merci, cette fois-ci, il n'y a pas eu de mort à ma connaissance. Mais c'est toujours les mêmes irrégularités qui reviennent. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en principe, la CEI devait faire le bilan des élections précédentes pour améliorer les conditions de tenue des élections. C'est pas le cas. Il y a le fait aussi que la CEI travaille contre les dispositions du code électoral.
Est-ce qu'on ne dirait pas que vous avancez cela parce que vous avez une dent contre la CEI?
Je n'ai aucune raison d'avoir une dent contre la CEI. Ce que je dis là, c'est des faits qui sont prouvés. Je n'invente rien. La CEI même est problématique dans sa composition. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé une réforme. Il n'y a pas eu de réforme, il y a eu une recomposition. Maintenant, dans sa manière de travailler, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer.
Alors, à l'observation même des élections, qu'est-ce que vous avez constaté?
On a constaté beaucoup d'irrégularités depuis l'ouverture, les horaires tenus du scrutin, comme l'environnement sécuritaire. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert à l'heure. Dans le principe, le retard devait être rattrapé. Ça n'a pas été le cas dans certains bureaux de vote. Il y a eu des bureaux de vote où les gens sont partis, ils n'avaient pas leur nom sur la liste. On leur demande carrément d'aller voir dans les bureaux voisins. Et ceux qui ont moins de chance n'ont même pas retrouvé leur nom dans les bureaux voisins, mais il paraît que leur nom était à l'intérieur du pays ailleurs. Il y a eu des bureaux de vote où le matériel électoral était défectueux. Il y a eu des bureaux de vote où des gens ont été empêchés de voter. Franchement, il y a eu beaucoup d'irrégularités.
Grosso modo, est-ce que cela entache la sincérité du scrutin qui a eu lieu?
Absolument. On va pour que les gens expriment leur suffrage. S'ils sont empêchés de voter, il y a un problème.
Mais on va vous rétorquer que Mme Pulcherie Gbalé, ce n'est pas sur toute l'étendue du territoire.
Il y a eu des zones où tout s'est passé dans le calme, comme à Daoukro, à Diégonéfla. Mais on relève ce qui est négatif pour que cela puisse être corrigé les prochaines fois.
Donc, dans ce cas, quelles sont les recommandations que vous formulez?
La CEI est l'organe qui organise les élections. C'est un organe d'arbitrage. Donc, pour nous, les partis politiques ne devraient pas faire partie de la CEI. Donc, cette CEI-là doit être réformée pour qu'elle soit indépendante.
Mais on pourra vous dire qu'on peut être partisan, mais diriger la CEI quand même.
Non, pourquoi? Jusqu'à présent, ça n'a rien donné de positif. Hein. Vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est quand Honoré Guié a été président de la CEI qu'il a lutté même pour que le scrutin soit sauvé. Mais toutes les fois où il y a eu des violences, là, c'est les politiques, ça n'a rien donné de bon.
Mais on va vous rétorquer que, mais Mme Pulcherie Gbalé, vous êtes présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, mais partisane.
Je ne suis pas partisane. Décrier l'état de la CEI, en quoi est-ce que c'est partisan? Si je n'avais pas d'éléments de preuve de ce que je dis, je vous comprends. Regardez par exemple, normalement les révisions électorales dans le code électoral se font annuellement. Jusqu'à présent, on faisait les révisions les années électorales seulement, pas tous les ans, ce qui n'est pas déjà normal. Et il y a eu une révision électorale en décembre 2022, il n'y a pas eu de révision en 2023, et puis on va aux élections. On dit dans l'article 109 du code électoral que ce sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux qui élisent les sénateurs. Et dans le même code électoral, de l'article 197 à l'article 201, on présente toutes les conditions du contentieux électoral. Et quand on tient compte de ces conditions du contentieux électoral, il faut qu'il y ait au minimum un mois, voire même trois mois, entre l'organisation des élections locales et régionales et l'organisation des sénatoriales. Parce que s'il se trouve des cas selon le contentieux là, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Donc comment on peut programmer les sénatoriales 2 semaines après les élections locales? Il y a un problème.
Mais récemment, le président de la CEI a répondu à la question disant que c'est la loi même qui permet ça parce que les résultats de la CEI sont des résultats définitifs et que si dans le cadre du contentieux, le Conseil d'État arrive à infirmer un résultat, oui, le vote a déjà été fait puisque c'est un résultat définitif. Le président de la CEI a répondu ainsi.
Mais s'il est définitif, quelle est l'utilité du contentieux? C'est un problème. Le contentieux devrait remettre en cause le résultat au cas où le plaignant a raison.
Oui, mais le président de la CEI a expliqué que le monsieur qui a participé au vote pour les sénatoriales, pendant qu'il participait au vote, comme le résultat de la CEI est un résultat définitif, donc il était légal et légitime pour le faire.
Non, le code électoral dit que ce sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les élus du district qui votent. Si par exemple on décide de reprendre une élection quelque part, les conseillers là peuvent pas être définitifs. Or, la procédure même pour reprendre là, ça prend 3 mois. Et puis on organise les sénatoriales 2 semaines après, il y a un problème.
Plus chéri Balé, je vous remercie.
Merci à vous aussi.
L'invité du jour est la présidente d'une plateforme de la société civile dénommée Alternative Citoyenne Ivoirienne. Pulcheri Gbali se prêtait aux questions de Francis Cassi. Et pour clore, le rappel de l'essentiel. Double cérémonie de lancement des activités de la quinzaine des droits de l'homme et du prix national des droits de l'homme pour l'édition 2023. Le choix du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, s'est porté sur le thème suivant, jeunesse, droit et engagement civique. Quant à la quinzaine des droits de l'homme, c'est un programme de mobilisation de l'opinion nationale sur la question des droits de l'homme en général. Ce programme promeut également des droits plus spécifiques comme ceux des jeunes à l'honneur cette année. Merci de votre attention. Je reviens à 8h pour un autre journal et c'est sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste.